Le professeur, c'est fondamental dans une société qui va bien. On a besoin qu'il se sente soutenu par nous tous. C'est l'état dans lequel je suis, déclaré Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, au micro de France Inter le 2 novembre dernier, quelques minutes avant de se rendre au collège du Bois d'Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine, en vue de l'hommage national. Le 16 octobre dernier, dans les rues de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie au collège du Bois d'Aulne, est assassiné pour avoir diffusé dans sa classe des caricatures du prophète Mahomet éditées par le journal Charlie Hebdo. Un mois et demi après l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015 à Paris, ce drame oblige une nouvelle fois à s'interroger sur la place de la laïcité, mais aussi celle de la liberté d'expression dans une profession. En parallèle de l'interview du ministre, la colère se faisait entendre à une quarantaine de kilomètres de Conflans, dans les lycées Saint-Exupéry et Jean Rostand à Mantes-la-Jolie, où des professeurs se sont mis en grève contre le manque de mesures de protection sanitaire dans leurs établissements. Aider, fortifier, protéger, soutenir le corps enseignant, tout autant de termes entendus et répétés ces dernières semaines. Mais qu'en est-il vraiment? À l'heure actuelle, les professeurs ont-ils le sentiment d'être soutenus et entendus par les institutions qui les encadrent et représentent? Ou alors, au contraire, pourrait-on parler d'incompréhension ou même d'indignation ressentie par le corps enseignant? Pour ce deuxième épisode, Vécu d'Actu est allé à la rencontre d'une enseignante de banlieue parisienne ayant fait le choix de rester anonyme pour ce témoignage. Elle a accepté de nous dévoiler son parcours, son environnement, ses ressentis face au meurtre de Samuel Paty, mais également, et surtout, sa vie de prof.
Comment ça se passe? Bien sûr, c'est pas possible. Enfin, donc oui, bien sûr, il y a une colère.
La liberté est pour moi le droit de ne pas mentir, c'est la définition la plus actuelle que je connaisse à ce moment.
Vécu d'actu, des regards concernés par l'actualité. La Ligue de l'enseignement, Fédération du Nord et du Pas-de-Calais, Cyriane Dutoit.
Alors, je suis enseignante dans un collège, ça doit être ma 11e année. J'ai commencé à enseigner un petit peu par hasard. J'ai passé le concours parce que je savais pas trop quoi faire précisément de ma vie et je me suis dit que c'était toujours bon à prendre un concours. Et pour être honnête, je me suis retrouvée propulsée devant une classe en septembre alors que dans mon esprit, j'allais avoir une année de formation, comme quoi je m'étais vraiment pas du tout renseignée. Et du coup, j'ai un peu découvert ce que c'était sur le terrain. Et puis, ça m'a plu. Et donc, du coup, je suis restée dans le milieu depuis maintenant 11 ans. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai pu travailler en lycée, mais aussi en collège, plein d'endroits différents. Donc, j'aime bien cette flexibilité aussi. Alors, je suis dans un établissement classé REP, hein, donc zone d'éducation prioritaire, là. Donc, ça signifie, on est dans le 92, donc c'est un établissement plutôt urbain, mais dans les cités. Donc, on accueille une jeunesse qui est quand même essentiellement défavorisée, essentiellement issue de parents qui sont immigrés de deuxième ou troisième génération. Voilà, donc c'est pas un établissement facile, hein. D'ailleurs, il n'a pas la réputation d'être facile, à juste titre. Parce que on est exposé à effectivement une certaine pauvreté, voilà, des difficultés comme ça sociales qui impactent l'enseignement et qui impactent nos élèves a fortiori. Donc ce qui est mis en place, c'est une bonne question, qu'est-ce qui est mis en place? Je dirais que les effectifs sont un peu plus allégés que dans d'autres établissements, encore que pas assez. Qu'on a quand même pas mal de moyens financiers pour monter des projets quand on n'est pas en temps de confinement. Donc voilà, ça change à ce niveau-là, mais c'est vrai que c'est un public qui est quand même assez difficile. J'ai pas commencé dans cet établissement parce que sinon je crois pas qu'honnêtement je serais encore prof aujourd'hui, même si j'y trouve quand même mon compte, hein. Voilà, autant la première année a été assez violente, autant maintenant je commence un petit peu à me sentir plus à l'aise, voire carrément plus à l'aise que la première année. On finit heureusement par développer des stratégies d'adaptation. C'est aussi ce qui fait l'intérêt de ce métier, hein. C'est qu'à chaque fois, il faut s'adapter à un public qui désarçonne de manière différente. Donc, Voilà, bon, qu'aujourd'hui, ça va.
Vous êtes donc prof de français. On étudie des textes qui parlent parfois de censure, qui sont des caricatures. Comment elles sont reçues? Comment vous les amenez? Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec certains textes?
En fait, on est assez libre des supports qu'on peut choisir. Donc, c'est un peu une affaire de sensibilité, de choix personnel. Moi, je sais que j'essaie toujours de partir un petit peu de ce qu'ils connaissent. Donc, comme j'ai une population à majorité musulmane. Mais par exemple, quand je fais les textes fondateurs, je pars du Coran, mais j'essaye tout de suite de mettre en parallèle avec la Bible, la Torah, enfin, voilà, d'essayer de montrer, d'étudier le fait religieux, on va dire, comme un fait, justement, et pas comme un système de croyance. Donc, j'essaye un petit peu de leur ouvrir les perspectives. Je choisis aussi mes textes pour qu'ils y réfléchissent. Enfin, j'espère que ça leur apporte une visibilité un peu plus large de cet univers, de leurs connaissances qui sont souvent très très limitées. Hein. Ils ont l'impression qu'ils maîtrisent le Coran, l'islam, mais en fait, ils s'est bourré de stéréotypes, d'idées reçues que la plupart du temps leurs parents ne partagent même pas. Hein. C'est-à-dire, ils se les créent entre eux dans leur génération et ils se mettent beaucoup de pression à ce sujet. Donc c'est vrai que nous, on essaye un petit peu dans l'enseignement de l'analyser de manière dépassionnée, de voir ce qui est dit dans le texte en partant de ce qui est vraiment dit du texte et dans quel contexte historique. Parce que y a une historicité de tous ces textes quoi, qu'il faut remettre en perspective. Et voilà, et après, on essaie d'amener vers des débats d'idées sur... Moi, je sais que j'essaye aussi pas mal de sensibiliser sur la place de la femme parce que je trouve qu'il y a un héritage qui les entrave, enfin la population féminine. Voilà, tous ces points-là qui, moi, me touchent un peu plus en tant qu'enseignante féministe. Donc, voilà, on utilise des biais détournés. En général, ça se passe plutôt bien parce qu'ils sont curieux, ils ont envie de questionner, de comprendre, etc. Les seuls moments où parfois je m'énerve et où je sens que là ça va être compliqué de se comprendre, c'est quand j'ai des réactions tout de suite effarouchées parce que j'emploie le terme Dieu, parce que voilà, ils ont l'impression que c'est tout de suite un blasphème. Qu'est-ce que c'est que ces barrières que vous mettez, quoi? Donc c'est vrai qu'il y a des moments où il y a beaucoup d'incompréhension. Et ce qui est particulièrement frustrant, c'est que j'ai l'impression par moment que, en tant qu'enseignante qui n'est pas, en tout cas en apparence, de leur foi, de leur milieu culturel, j'ai pas forcément la légitimité d'en discuter. C'est-à-dire qu'ils vont m'écouter parce que bon, je suis leur prof et voilà, de toute façon, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de m'écouter. Mais je suis pas sûre que j'arrive vraiment à les convaincre. Il y a des barrières comme ça où c'est compliqué de les contourner. C'est un peu frustrant, je pense, pour eux et pour moi, parce que des fois, ce serait bien de pouvoir parler à cœur ouvert.
Ça fait une semaine, du coup, que vous avez repris les cours et 3 semaines, ce qui s'est passé depuis les événements. Vous, comment vous avez réagi avec Samuel Paty? Est-ce que ça fait écho à votre travail et à votre condition de prof en France?
Oui, ça m'a particulièrement touchée, je pense, comme la plupart de mes collègues. J'ai des collègues qui en font toujours des cauchemars aujourd'hui. On n'en parlait pas plus tard qu'aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui vraiment nous hante. Pour la bonne et simple raison que ça aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous, enfin ceux qui font leur boulot un peu consciencieusement et qui osent justement aborder ces questions-là, parce que je sais que on n'est pas nombreux à oser les aborder. Moi, je les aborde pas non plus frontalement, donc c'est bien justement qu'il y ait des collègues comme ça qui osent. Et puis on se dit, il a payé pour son audace de la manière la plus atroce qui soit, et on ne s'attend pas à ce que ça arrive sur le sol français, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai ressenti aussi une pointe de culpabilité parce que je me suis demandé tout de suite si je n'avais pas été un peu trop bienveillante, justement dans le mauvais sens, dans mon enseignement, si j'avais... Parce qu'en fait, on participe un peu tous de cette espèce de côté un peu tabou de certains sujets. On le fait, alors pas toujours de manière consciente, mais c'est vrai que moi, je me dis, est-ce que j'aménage pas des fois un peu trop ce que j'ai à dire pour pas heurter? Et je crois que si c'était quelque chose en fait de plus répandu, si on osait, si on était aussi un peu mieux formé, un peu mieux équipé, parce que c'est des questionnements. Franchement, on s'est dit là, on n'a même pas pu se réunir avant l'hommage à Samuel Paty. On s'est dit, on va avoir des questions. Est-ce qu'on va pouvoir y répondre, quoi? Et d'ailleurs, on a eu beaucoup de questions. On n'a pas su forcément y répondre. Alors du coup, maintenant, il y a des choses effectivement qui se mettent en place. On se réunit cette semaine pour pouvoir réfléchir par niveau sur comment on va continuer à travailler sur ces questions-là, parce qu'on s'est rendu compte que déjà il y avait beaucoup de désinformation auprès de nos jeunes, qu'ils avaient pour la plupart pas du tout compris ce qui s'était passé avec Samuel Paty. Alors déjà, ils pensaient que Charlie Hebdo c'était un mec qui détestait les musulmans, donc du coup de là découlait tout un sentiment d'injustice et d'incompréhension légitime par rapport à ce que eux avaient compris, c'est-à-dire oui, mais alors s'il était méchant avec les musulmans, pourquoi est-ce que on faisait une minute de silence pour lui rendre hommage alors qu'il y avait plein de morts par ailleurs, enfin, donc du coup voilà, ça, on s'est rendu compte qu'en fait on avait défriché un terrain très très vaste en fait de questionnement, et que il allait falloir sérieusement l'appréhender, quoi, et pas juste effectivement dans le cadre de l'enseignement civique et moral qu'il y a en histoire-géographie, quoi, mais tous de manière directe ou indirecte dans le cadre de nos matières. Et je pense que la plupart de mes collègues, ils ont senti aussi le besoin de mettre la main à la pâte, quoi, et qu'en fait on avait besoin d'un cadre pédagogique plus clair, quoi. Je sais qu'on est, par exemple, moi, dans mon enseignement, je traverse souvent des questions comme ça, par exemple, sur l'homosexualité. Je sais que dès que j'emploie ce terme-là, j'ai des réactions de dégoût, ils font semblant de vomir, etc. Alors, je vais en parler à ce moment-là dans mon cours, je vais dire, mais comment, enfin, je vais m'insurger parce que moi, ça me heurte, ça me choque. Mais ils vont m'écouter et puis on va passer à autre chose. Et en fait, c'est cette impression, en fait, d'en rester sans cesse à l'état d'esquisse et de pas aller vraiment au fond des choses, parce qu'on a un programme, parce qu'on a des auteurs, parce qu'on a des textes, et en fait ces questions de morale, si je puis dire, qui tiennent vraiment à l'essence humaine, on n'a pas vraiment le temps, ou on prend pas vraiment le temps, ou on sait pas comment vraiment les aller au cœur de ce sujet, quoi. Et en fait, ce qui serait intéressant, je pense, c'est à la limite de faire des journées autour de ces questionnements-là, où avec, on est plusieurs intervenants. Voilà, parce qu'en fait, oui, c'est ça, c'est qu'on n'a pas forcément les bons outils pour savoir vraiment. Enfin, je vais leur dire, oui, c'est pas bien de dire ça, c'est du racisme ou c'est de l'homophobie. Mais bon, ils vont l'entendre, mais ils vont pas l'appréhender vraiment, quoi, au fond des choses. Et c'est pareil pour tous les tabous religieux. Là, bon, ils ont bien compris que décapiter pour un dessin, c'est inconcevable, etc. Mais est-ce qu'ils ont vraiment compris qu'en France, on est dans la liberté d'expression, on a le droit de critiquer ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait, mais pas ce qu'on est? Est-ce qu'ils ont vraiment compris cette nuance-là? Je ne suis pas si sûre. Et c'est très difficile pour eux de comprendre en fait que oui, on peut critiquer les religions, on peut critiquer les dogmes, mais on ne va pas critiquer les personnes. En fait, c'est des questionnements. Après, on répond à une question qui en fait naître 10 autres, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, on est un peu perdu sur comment on répond, en fait. Qu'est-ce qu'on répond, comment on répond, comment on leur fait comprendre. Parce que nous, on a fait des études, enfin, des enseignants, on est au fait de la culture littéraire de la France, de cette tradition de caricature qui remonte au Moyen-Âge. Voilà, on sait qu'il y a une histoire de censure, que les médias ont été censurés de tout temps pour des faits similaires, mais eux, ils n'ont pas en fait toute cette connaissance historique. Donc voilà, ça leur tombe un petit peu dessus comme ça, ils ne savent pas d'où ça vient, et voilà, il faut qu'on arrive à décortiquer tout ça. Peut-être en accentuant la fréquentation d'idées choquantes pour eux, quoi. Peut-être que ça commencerait par là, effectivement, beaucoup plus tôt. Alors évidemment, toujours mettre en perspective, c'est toujours pareil. Moi, je pense que d'ailleurs, c'est ce qu'il avait fait Samuel Paty, c'est mettre en lien des caricatures, pas que sur l'islam, mais sur le christianisme, le catholicisme.
Comment vous l'avez perçu cette rentrée après les attentats ?
Alors, de la part de nos chefs, franchement, ils ont été hyper compréhensifs, hyper soutenants. Ils nous ont dit, bon, vous faites la minute de silence. Si vous voulez faire plus, débattre, etc., dans la séance, vous le faites, mais il n'y a pas d'obligation. Et je pense que c'était bienvenu, en fait, cette attitude, parce que certains avaient envie d'en parler, certains n'avaient pas envie, ou certains voulaient attendre, ou certains voulaient prendre la température. Moi, personnellement, j'ai choisi de faire une heure dessus parce que ça me tenait à cœur, parce que j'avais été touchée, parce que je voulais en parler, parce que je voulais marquer le coup. Mais je peux tout à fait comprendre que mes collègues se soient sentis mal à l'aise. En tout cas, c'est clair que le sentiment général, et mon sentiment aussi, c'est qu'en fait, on aurait vraiment dû faire quelque chose de plus solennel, de plus approfondi. On a eu un peu l'impression que ça a été bâclé. Faites une minute de silence parce que voilà, c'est intolérable. Et puis voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est bien que dans mon établissement, on ait décidé de vraiment travailler le sujet et de continuer. Mais je sais que ce n'est pas le cas dans beaucoup d'établissements. Et je pense que ça participe de ce sentiment de colère que la profession a. Ça y est, on passe à autre chose. Non. C'est pas acceptable en fait de passer à autre chose là. C'est grave et c'est pas juste un phénomène isolé. Je veux dire, la décapitation d'un collègue, évidemment, oui, c'est atroce, mais je veux dire, on sait très bien qu'on est confronté à ces problématiques constamment quoi, dans nos enseignements. En fait, on se heurte comme ça à des tabous dans tous les milieux et voilà, c'est des choses qu'il faut affronter quoi. Il faut pas juste pour éviter justement d'en arriver là quoi. À ce genre d'extrême. Donc voilà, je pense qu'il y a toujours chez moi un sentiment de colère, de tristesse. Et je sais qu'il est partagé par beaucoup de mes collègues encore aujourd'hui. Et j'espère justement qu'il ne va pas disparaître comme ça du jour au lendemain, comme si c'était juste un fait anodin, quoi.
Et votre sentiment de colère, il est global en fait?
Pour moi, je l'analyse comme le résultat de décennies de dégradation du statut du professeur qui est lié au choix politique des derniers gouvernements, de ne pas nous valoriser suffisamment, du fait que la société, de plus en plus, on entend de plus en plus ce qu'on a appelé le prof bashing, quoi. On est toujours catalogués comme des fainéants, toujours en grève, des privilégiés, alors qu'on fait un métier extrêmement difficile, extrêmement usant psychologiquement, qu'on donne énormément de soi dans ce métier. Ce prestige, on va dire, ou ce respect de notre profession, il a disparu au fil des années. Et là, on le voit bien, il y a des attaques, on en arrive à des attaques physiques quoi, sur des enseignants, alors qu'on ne devrait jamais en arriver là. Et encore une fois, ça aurait été un événement isolé, on se serait dit, bon, c'est le résultat d'un malade mental, mais pas du tout, c'est une chaîne de responsabilité. Ça va du parent qui a lancé une fatwa, aux réseaux sociaux qui ont commencé à critiquer le prof. Je veux dire, c'est des champs de choses aujourd'hui qui font mal à toute la profession derrière cet événement. Et on sait que c'est en marche depuis longtemps. Il y a une espèce de dégradation collective, sociale, politique de notre métier qui nourrit ce sentiment d'amertume, de frustration, qui est, je pense, ressenti par toute la profession, et moi y compris. Ça, ajouté avec ce que je vous disais tout à l'heure, ce sentiment de culpabilité de peut-être pas en avoir fait assez quoi, pour que ce genre de choses ne soit pas vécu comme un drame isolé, mais que ce soit quelque chose finalement de courant, quoi, que dans tous les établissements on aborde ces questionnements-là, et que bon, certes, ça choque, ça crée des débats, mais ça reste quand même de l'ordre du normal, le débat d'idées. Le sentiment de ne pas avoir assez contribué à ça, personnellement et collectivement. Je me ressens comme ça en tout cas. L'idée, c'est vraiment qu'ils se disent on est dans un établissement français, donc ici, on a le droit d'aborder ces sujets-là, on a le droit d'en discuter, et dans ce pays. L'idée, c'est vraiment d'inscrire ça dans la société d'éducation, les valeurs françaises, parce que ça, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas du tout compris. Enfin, ils ont compris ce que c'était la laïcité maintenant et la liberté d'expression, mais ils n'ont pas fait le lien, en fait, avec notre enseignement et comment on peut en débattre. Donc ça d'une part, et d'autre part, je me dis qu'en fait moi aussi je manque de connaissances par rapport à l'islam, par rapport à ce qui est dit dans les textes, par rapport au rapport qu'il y a avec Mahomet, par rapport à Donc je me dis, bon, déjà, si nous, on pouvait être un peu plus formés sur ces questions-là pour savoir, en fait, qu'est-ce qui risque de les choquer particulièrement et comment on peut le contourner? Qu'est-ce qui est vraiment dit dans les textes? Comment est-ce que... c'est tendancieux parce qu'on est dans un état laïque, donc on ne peut pas non plus... on n'est pas là pour prêcher quoi que ce soit. Mais on doit pouvoir en discuter librement et savoir y répondre. Et donc moi je me dis il y aurait des choses à faire de ce côté-là aussi. Et et il me faut des outils pour arriver à combler le fossé, en fait, tout simplement. Qu'au moins, pas au niveau de la foi, mais au niveau de mes connaissances, je puisse leur dire oui, d'accord, toi tu as été choquée parce que, mais tu sais, si on regarde dans les textes, voilà ce qui est dit précisément. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Et voilà, des outils en fait pour répondre à ça.
C'était le deuxième épisode de la série Ma vie de prof, des professeurs qui nous dévoilent comment ils ont appréhendé l'attentat de Conflans. Un grand merci à cette professeure qui a accepté de raconter comment elle a ressenti et vécu ce fait d'actualité. Le podcast Vécu d'Actu est disponible sur le site de la Ligue de l'Enseignement du Nord et sur la plateforme Audioblog.